Lundi 13 mai, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. L'Université McGill s'adresse aujourd'hui aux tribunaux pour obtenir le démantèlement du campement pro-palestinien érigé sur son terrain depuis maintenant 2 semaines. Elle allègue notamment que la centaine de tentes pose des risques pour la santé et la sécurité pour justifier sa demande d'injonction. Une précédente demande formulée par 2 étudiants avait été rejetée par la Cour supérieure le 1er mai. Appelée à commenter, l'avocate en droit civil, maître Guylaine Bachand, croit que l'issue pourrait être différente.
S'ils arrivent à prouver ce qu'ils prétendent, c'est par exemple là, accès refusé, service d'incendie, des déchets humains, ben là peut-être qu'ils ont plus de chance.
On ignore pour l'instant quand une décision sera rendue. Le gouvernement du Québec reste ferme. Il y aura un bureau du Québec à Tel Aviv, en Israël. Un nouveau campement a été érigé hier au pavillon des sciences de l'Université du Québec à Montréal, où les étudiants demandent entre autres à ce que le gouvernement du Québec recule et n'ouvre pas de bureau. C'est dans ce contexte que Martine Biron, la ministre des Relations internationales, a réitéré son intention d'ouvrir le bureau à Tel Aviv en conférence de presse ce matin. La ministre indique qu'il servira à des fins commerciales.
L'installation du bureau à Tel Aviv n'a strictement rien à voir avec le gouvernement Netanyahou. Ce bureau-là, cette décision-là, elle est antérieure au conflit actuel. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, au sein de la société civile, autant en Israël que dans les territoires palestiniens, on prépare l'après-guerre.
Un témoin clé est à la barre aujourd'hui au procès de Donald Trump, son ancien avocat Michael Cohen. Selon l'accusation, l'ancien président aurait falsifié les comptes de son entreprise pour rembourser à l'avocat 130 000 $ versés à l'ex-actrice porno Stormy Daniels en échange de son silence sur une relation sexuelle. Michael Cohen a témoigné comment il avait mis à profit ses contacts dans les médias pour Donald Trump. Il a reconnu avoir menti et intimidé pour lui. La spécialiste de la politique américaine et chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, Valérie Beaudoin.
Est-ce que Michael Cohen va prouver que Donald Trump lui a dû mentir? C'est assez particulier. Donald Trump, ancien président des États-Unis, qui était à la tête avant d'un empire, là, l'empire Trump, n'avait même pas d'adresse courriel. Donc, on n'a rien de trace. C'est pour ça qu'on doit aller vraiment dans le détail des textos, des appels, des enregistrements, des courriels entre Michael Cohen et d'autres personnes. Comment tu veux prouver qu'il a menti au nom de Trump?
10 mois après le décès d'un homme, la Société de l'assurance automobile du Québec a envoyé à sa succession un avis de renouvellement de son permis de conduire. C'est ce que l'équipe de l'émission L'Effet Normando a appris. Le permis avait pourtant été annulé à la suite du décès. Denis Couture.
Christiane Martel a été très étonnée la semaine dernière quand elle a reçu le renouvellement du permis de conduire de son père décédé en juillet dernier. L'avis de paiement était adressé à la succession.
Je comprends pas comment est-ce qu'on peut renouveler un permis à une succession pour commencer. C'est pas un arriérage, là. C'est pour l'année qui vient. De 2024 à 2025.
Pourtant, le décès avait bel et bien été confirmé en bonne et due forme.
Ils ont annulé le permis de conduire. Ils m'ont donné une confirmation à l'effet que c'est annulé. J'ai un numéro de service, la date de la transaction, l'heure.
La fille du défunt ne sait trop que faire devant une telle absurdité.
Je suis pas allée à la sac encore, là. J'ai dit, moi, tu vas aller attendre 2 heures pour me faire dire que... Mon papa est décédé, ça je le sais.
La SAAC dit se pencher sur le dossier. Christiane Martel le souligne. Il faut bien se rendre à l'évidence.
À la succession. Mon papa, il est décédé. Il ne conduira plus, là.
Ici Denis Couture pour Cogeco Nouvelles.
Et l'homme d'affaires du Nouveau-Brunswick, Arthur L. Irving, connu pour avoir siégé à titre de PDG de la pétrolière Irving Oil, est décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. La compagnie Irving Oil a été fondée par son père Kenneth Colin Irving en 1924 et il avait pris le relais de l'entreprise lors du décès de ce dernier en 1992. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Suivez Michel Turcotte à CFX FM 93.
Le commerce n'est pas facile à Rimouski. On a des locaux, des commerces là, qui déménagent ou qui ferment. Ça, c'est un peu normal. Ça a toujours été un peu comme ça là, au centre-ville de Rimouski depuis quelques années. Là, on a une partie là, du parc commercial qui est inexploitée, qui est vide. Et c'est pas facile à louer là, concernant le commercial de ce temps-ci. Même s'il y a des rumeurs de nouveaux commerces qui veulent s'installer au centre-ville, ben effectivement, là, on peut les compter sur les doigts d'une main, tandis que les fermetures, elles, donc, continuent de se succéder, là. Nous, ici, juste en bas de chez nous, on a perdu Verpomme dernièrement, là, qui est déménagé sur le boulevard, là, Arthur-Buis, puisque le commerce a été acquis, là. Ben voilà, c'est un exemple comme ça. En face, on a juste en face de nous, ben, l'ancien magasin de musique aussi qui est déménagé, là.
La chronique municipale, tous les lundis, 7h45. Une présentation de TMS Solutions. We'll be right back.
branché sur Rimouski et l'Est du Québec. En direct sur l'événement, à la minute où ça se produit. Le choc des idées, des entrevues qui font avancer. Et surtout, votre opinion. FM 93.
Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans Réserve. Sans Réserve. L'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez.
Catherine Beauchamp s'en va à Cannes, la maudite chanceuse. C'est-tu beau, la job de chroniqueuse culturelle? Elle va-tu en manger des croissants? Elle sera avec nous. Ça sera le dernier segment de l'émission. Carl Tremblay va nous parler de ces Québécois qui craignent pour aller chez le dentiste. On aura la visite de trois excellents concepteurs, réalisateurs et journalistes d'un film, d'un documentaire qui s'appelle Le Dernier Flip. Puis qui vous raconte tout sur le marché immobilier. Mais avant tout, mesdames et messieurs, Meeker était au stade Saputo samedi pour voir Lionel Messi. Bonjour, Meeker.
Salut, Luc. Mais je dois rectifier les choses. Parce que moi, je dis que j'étais au stade de Saputo pour voir Lionel Messi. Mais dans le fond, j'étais au stade Saputo pour voir les gens qui sont allés voir Lionel Messi. Je trouve ça, là, je fais souvent la même blague depuis quelques jours, mais je ne l'ai pas faite à toi encore. C'est comme quand tu vois une belle fille passer dans la rue.
Tu regardes les gars qui regardent.
Et voilà! Mais bon, les filles aussi, des fois, qui regardent, puis les gens, puis la réaction des gens, ou quand il se passe un événement qui attire l'attention de tout le monde se tourne, on regarde ce qui se passe. Moi, j'aime bien voir, parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur nous, puis ça en dit beaucoup sur notre société, les comportements qu'on a. Puis je trouve, oui, tu sais, j'étais content de voir Lionel Messi, mais tu sais, c'est bien plate, mais moi, j'ai vu Kylian Mbappé à la Coupe du Monde au 14. C'est un peu difficile à battre. Tu sais, j'ai vu en vrai, puis tu sais, non, je tire la pièce à mes amis argentins. Oh, oui, c'est vrai que je l'ai vu, mais c'est parce qu'il y a
entre
beaucoup...
Kylian Mbappé puis Messi, qui tu trouves qui est le plus spectaculaire?
Hey. Oh mon Dieu, mes amis argentins.
Il faut que tu prononces, t'es obligé de le dire.
J'aime beaucoup Kylian Mbappé.
Ah oui, c'est vrai.
Kylian Mbappé m'impressionne par sa vitesse. Parce que, écoute,
c'est le jeu de pied de Messi.
Non, mais Messi est tellement intelligent, ça faut lui donner, puis c'est pour ça que en ce moment c'est le plus grand joueur au monde. Mais je sais pas, il y a quelque chose que je l'aime beaucoup, Lionel Messi.
Est-ce que tu le comparerais à Wayne Gretzky un peu?
Ouais, j'aime pas ces comparaisons. Là, peut-être oui pour les gens qui suivent le hockey, qui suivent pas
le foot. Parce que le gars toujours bien placé à la bonne place, fait juste le bon move pour la mettre, cadré à chaque fois. T'sais. Ok, ouais. T'es hot là. Mais tu le vois pas.
C'est un Messi vieillissant aussi. Il faut dire qu'il est pas au sommet de son art présentement. Il a quand même gagné la Coupe du Monde, mais il vieillit. C'est pas le Lionel Messi du Barça, mais il est extraordinaire. Et j'étais content d'être là pour vivre l'événement. Puis tu te rappelles la semaine dernière, je te disais, je sais pas, je suis pas aussi enthousiaste à l'événement. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont pas écouté puis qui étaient pas du tout du même avis que moi parce que ça a commencé la veille vendredi au Ritz-Carlton. Il y avait des centaines de personnes autour du Ritz. Tu sais, souvent, autour du Grand Prix, autour du bal au Ritz, il y a beaucoup de gens qui s'agglutinent en avant. On attend de voir des vedettes, on attend de voir des pilotes également, on demande des autographes. Il y a du clinquant. Là, c'est un match de foot, un samedi soir du mois de mai, une équipe de Miami qui vient à Montréal. Écoute, des centaines de personnes qui attendaient, qui prenaient des photos. On entendait les gens crier, chanter.
Magnifique.
C'était le fun. Et au stade samedi, j'ai essayé d'arriver un petit peu plus tôt. Ça a été quand même un peu compliqué là, avec tous les travaux qu'il y a autour. Là, la rue Pinneuf, entre autres choses, stationnement. J'ai été à pied au stade, parenthèse. J'ai pensé à toi, je voulais y aller en vélo. Je me suis rendu compte, c'est la première sortie de vélo de l'année. Mes pneus sont dégonflés, il faut que je fasse à réparer mon vélo. Fin de la parenthèse. Puis j'ai pas voulu prendre la bixi, j'ai pas d'abonnement. Fait que j'étais allé à pied et t'approchais du stade, puis tu sentais cette petite électricité. J'aimais ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Je parlais avec Elisabeth Crête samedi le matin, puis je lui disais, ça faisait longtemps qu'à Montréal, on n'avait pas eu un grand événement sportif. Tu sais, on parle de Montréal comme une ville d'événements. Tu sais, la Coupe du Monde, c'est trop. Une équipe de baseball, on n'a pas l'argent pour ça. Mais quand la F1 arrive, le festival de jazz, on a le tennis, on a des artistes qui arrivent, le Grand Prix cycliste. On sent que il y a des événements de plus qui font vivre la ville, qui réveillent la ville, qui font que les gens se rassemblent. Et d'ailleurs, parenthèse, le stade Saputo était plein, mais la place Belle aussi à Laval était pleine le même soir pour les filles qui jouaient contre Boston. En fait, les filles de la Ligue de hockey professionnelle féminine qui jouaient contre les joueuses de Boston. Je vais t'en parler tantôt. Mais, tu sais, quand même 30 000 personnes en tout dans des amphithéâtres sportifs un samedi soir. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Toujours est-il que en m'approchant du stade, tu sentais cette petite électricité-là. Puis quand tu arrivais à l'esplanade du stade, tu te dirigeais, tu entendais déjà la foule. Je pouvais savoir que Lionel Messi était sorti pour l'échauffement parce que la foule s'est soulevée d'un coup. Ah, mon Dieu, c'était... Puis ça, c'était le fun. Sur le terrain, ça a été autre chose parce qu'il n'a pas été aussi spectaculaire qu'il aurait pu l'être. D'ailleurs, le CF a marqué les deux premiers buts du match. Il aurait mérité, le CF Montréal, un meilleur sort parce qu'on a perdu 3-2 après avoir marqué deux superbes buts. Mais... dès que Lionel Messi touchait le ballon, tu sentais le petit...
Ah oui.
Qu'est-ce que... il va-tu se passer quelque chose?
Finalement, il n'a pas fait de miracle.
Il n'a pas fait grand-chose, même que le plus beau but a été marqué par Roa sur un coup franc, un coup de pied arrêté de 45 mètres environ. Le genre de but que Messi aurait pu marquer, mais il était sur les lignes de côté parce qu'il était sorti sur blessure. Tout ça pour dire que, durant le match... on a senti cette fébrilité-là. Ça le comble. Tu sais, il y a beaucoup de gens s'inquiétaient. Ah, les billets sont pas vendus.
Ben, il était cher aussi.
Ouais, tous les billets étaient vendus, Luc. C'était la revente. Fait que le CF a fait son cash. À la revente, quelques minutes avant le match, j'ai regardé, il restait encore des billets à environ 500$ chacun. Alors, toi puis moi, j'aurais pas payé 500$ pour ça. Tu sais,
mais là, tu l'as vu, tu vois que c'était pas...
Non, ben c'est pas ça. C'est juste au départ, moi, je trouvais que c'était beaucoup 500$ pour voir un joueur. Tu sais, ça avait été une grande équipe. Tu sais, mettons, le PSG débarque.
Ben oui.
Le Real Madrid débarque. Le Barça. Quoique cette année, ils ont une saison de boîte, Manchester United, mais mettons, je sais pas, Arsenal.
Mais le PSG aussi, ils se sont fait sortir par Dortmund.
Ouais, mais ils se sont fait sortir en Ligue des Champions quand même. Je pense Manchester United finit genre 15e.
C'est
une saison de boîte, là.
Ouais.
Tout ça pour dire que j'aurais pas payé aussi cher pour ça, mais je peux comprendre, puis... je dis ça, mais tu sais, je suis un privilégié quand même. Là, j'ai voyagé, j'ai vu des matchs ailleurs. Mais d'avoir la visite d'un grand joueur comme ça...
Ça le fait, comme diraient les Français.
Ben, c'est le fun. Tu sais, t'as de la grande visite. Tu sais, regarde, le premier ministre français est venu au Québec. Regarde comment on lui a déroulé le tapis rouge. Vrai. Moi, je me disais, ben voyons, pourquoi on est tout le temps à plat ventre puis toujours impressionné par la France.
Vive l'Argentine.
Mais ça, c'est moi. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je peux comprendre pour un fan de foot moyen qui voit Lionel Messi arriver à Montréal. C'était une belle soirée au Stade Saputo. Il faisait beau.
Micker, le CF pas influencé par le départ d'Olivier Renard. Ils ont fait preuve de détermination.
Parenthèse, Olivier Renard était là. Je l'ai vu au stade avec sa petite casquette. Il se faisait relativement discret. Quelques personnes sont allées lui parler. Mais il était au stade Saputo. Et qui d'autre était là? Joey Saputo était au stade.
Il est revenu de Bologne.
Il est reparti à Bologne qui, eux, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, Bologne, il est reparti, si j'ai bien compris, aujourd'hui, dimanche. Et il était là pour les célébrations. Bologne qui se qualifie donc pour la Ligue des Champions. Donc, d'un côté, à Montréal, on se pose des questions, on se demande comment ça va, mais à Bologne, ça va très bien. Ce qui me fait poser la question, Luc, ça se peut-tu que c'est peut-être lui qui a raison, puis nous autres, on est dans le champ? Je ne sais pas. Je sais pas, mais ça marche à Bologne.
En tout cas, écoute, ça marche à Bologne. Il y a des pays, il y a des équipes qui marchent, puis à un moment donné, ça arrête de marcher, c'est la vie. Est-ce que tu sais une particularité de la ville de Bologne qui m'avait jeté par terre?
Vas-y.
Écoute, c'est un phénomène incompréhensible. À la sortie de la gare, il y a des milliers et des milliers de vélos. Mm-hmm. Un peu comme Amsterdam, mais des milliers. Là. Figure-toi, là, des milliers de vélos attachés les uns à côté des autres. Là, c'est comme la taille d'un terrain de football, okay? Plein de vélos.
Ouais.
Tous rouillés, qui sont là depuis 20 ans. Il n'y en a pas un qui marche. Il n'y en a pas un qui fonctionne.
Comment ça, ils sont là?
Ben, je ne sais pas. J'ai jamais trouvé la réponse.
C'est dommage une bonne question,
il y a,
ça.
Il n'y a aucun de ces vélos-là qui fonctionne. Ils sont tous hors circuit. Là. Ils sont là depuis des années.
Bonne question. Est-ce qu'on a des gens qui viennent de Bologne ici ou des Italiens qui peuvent nous aider avec cette question? Pourquoi il y a tant de vélos plutôt à la sortie de la gare de Bologne? Je vais enquêter, Luc.
OK, les filles?
Oui, les filles ont perdu contre Boston, malheureusement.
Ils sont super bonnes, puis ils perdent pareil.
Ah, mais écoute, Luc, ça a été deux matchs en prolongation. Le dernier match a duré à peu près l'équivalent de 5 périodes. 3 périodes de prolongation. En troisième période de prolongation, ils ont perdu. Erin Ambrose a joué 61 minutes.
Simonac.
61 minutes, c'est l'équivalent d'un match complet et plus.
Moi, je dirais, après trois périodes, tu tombes à temps double. C'est minimum. Moindrement que t'écris.